Voici les titres du journal.
Une soirée raclette caritative aura lieu ce soir au pavillon des Mangettes. Organisée par 3 élèves de l'ECCG de Montais dans le cadre de leur travail social, cet événement permettra aux participants de soutenir l'association Morija. Plus de 400 élèves vaudois de 10e ont expérimenté la vie professionnelle grâce à la semaine Immersio. Cette seconde édition a permis de créer des liens entre les jeunes et les entreprises locales. En cyclisme, le boyard Laurent Dufault est un directeur sportif heureux. Sa formation Elite Foundations dispute sa première saison au 3e échelon mondial et a déjà signé 3 podiums.
Pour la météo, un vendredi après-midi plutôt assez ensoleillé avant de retrouver un week-end plutôt mitigé. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Martine Justinaire. Bonjour Martine.
Bonjour Axel, bonjour à tous. 3 élèves de l'ECCG de Montais organisent ce soir une soirée caritative en faveur de l'association Morija. Cela se passe au pavillon des Mangettes et c'est dans le cadre de leur travail social que les étudiantes ont mis sur pied cette soirée intitulée « La raclette qui réchauffe les cœurs ». Sophie Bertel, l'une des élèves à l'origine de cet événement, nous explique ce qui est prévu.
Tout d'abord, il y aura une petite présentation de Morija. Après, il y aura la raclette à gogo. Et ensuite, on va faire un petit discours pour présenter un peu notre projet, tout ce qu'on a fait, etc. Et après, on va finir par un petit concert avec une chanteuse.
Une soirée qui permet aux élèves d'apprendre à organiser un événement dans les règles de l'art, tout en soutenant d'une manière bien précise l'association Morija. Luna Delacoste, elle aussi étudiante à l'ECCG de Montais.
Chaque raclette que vous mangez et chaque repas que vous faites à Morija sera un repas offert pour les enfants en Afrique subsaharienne. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu se tourner autour de ça.
Des propos recueillis par Léa Journeau.
Structurer sur le long terme la connaissance, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine archéologique valaisan.
Tel est l'objectif de la stratégie cantonale Archéo 2030, présentée hier à Martigny. Initiée à la suite de 2 postulats déposés ces dernières années au Grand Conseil, cette vision, unique en Suisse, se décline en 5 missions fondamentales. Identifier, protéger, conserver, étudier et valoriser. Pour cela, de nombreuses mesures ont été définies, parmi lesquelles le développement de la fondation Pro Octoduro à Martigny. Caroline Brunetti, chef de l'Office cantonal d'archéologie.
D'abord, on a une nouvelle structure à Martigny, hein, quand même, la nouvelle fondation Pro Octoduro, donc quelque chose de dédié entièrement à l'étude et à la mise en valeur. Les fouilles resteront de la compétence de l'Office. Et un deuxième lieu, un centre de compétences qui s'appellera Futur Antérieur, un hommage à Laurent Fuchs, qui lui permettra d'abord de faire le travail actuel de la surveillance du territoire, de lancer les fouilles, etc., de mettre à disposition nos mobiliers, nos résultats à des chercheurs, ce qui est aussi une façon d'économiser des sous, de donner des sujets de thèse, des projets de recherche pour le Fonds National de la Recherche, etc. Donc de valoriser et de présenter dans un temps un peu plus lointain nos collections au grand public.
Vous dire encore que le site archéologique des fouilles Insula 14 de Martigny ouvre ses portes au public les mercredis après-midi afin de permettre aux Valaisannes et Valaisans non seulement de découvrir le travail des archéologues, mais aussi de s'approprier leur patrimoine, un sujet réalisé par Léa Journeau.
La deuxième édition du programme Immersio a permis à plus de 400 élèves vaudois de découvrir un métier le temps d'une journée de stage.
Aux côtés d'un apprenti ou d'un employé, les jeunes de 10e année ont pu expérimenter des professions aussi variées que carrossier, charpentier ou encore opticien. Au total, près de 100 entreprises vaudoises et valaisannes participent au projet pilote Immersio, une manière pour les 5 établissements secondaires chablaisiens situés entre Baie et Villeneuve d'encourager la formation professionnelle auprès des étudiants, tout en renforçant le lien entre le monde du travail et l'éducation. Valentin Zapf, coordinateur régional AMP, cherche également à impliquer les familles lors d'une soirée réseautage.
On a invité tous les parents à venir et puis pour pouvoir aussi discuter avec l'entreprise qui a accueilli leur enfant, avoir un retour sur leur journée et puis après faire des liens avec d'autres entreprises présentes. Je crois que ça fonctionne assez bien parce que je crois que les parents ont bien compris qu'on n'envoyait pas leur enfant dans un métier où forcément ce sera leur métier futur, mais pour une découverte. Donc j'espère que voilà, il y aura du monde présent à cette soirée et puis qu'on pourra vraiment échanger avec d'autres partenaires aussi. On a plein de professionnels qui œuvrent aussi autour de la transition à la fin scolaire qui seront présents. Et puis c'est vraiment l'occasion de pouvoir échanger et discuter.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo, la semaine Immersio reviendra pour une 3e édition du 15 au 19 mars 2027. Le 1er avril en Suisse, la nouvelle ordonnance sur la protection contre le bruit entrera en vigueur dans le cadre des modifications de la loi sur la protection de l'environnement. Les nouvelles dispositions précisent notamment les critères en matière de bruit pour l'octroi des permis de construire et visent ainsi à créer des bases légales claires pour les zones à bâtir situées dans des endroits exposés au bruit. L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » porterait un coup terrible aux relations avec l'Union européenne et à la protection des travailleurs. C'est l'avis des syndicats et des partis de gauche qui entrent à leur tour dans la campagne en vue de la votation du 14 juin. Ils ont présenté leurs arguments aujourd'hui à Berne contre l'initiative de l'Union démocratique du centre. Le texte veut freiner l'immigration si la population résidente dépasse 9,5 millions de personnes avant 2050. Pour la gauche, cela signifie le retour du statut précaire des travailleurs saisonniers. Les explications de Lisa Madzon, présidente des Verts.
L'UDC dit très clairement dans son initiative, une personne ne compte au sein de la population seulement si elle reste une année ou plus au sein de la Suisse. Donc très clairement, l'UDC ne propose pas une décroissance économique. Ce que veut l'UDC, c'est le statut de saisonnier, ça veut dire des personnes qui viennent ici sans droit, qui sont arrachées à leur famille, qui du coup peuvent être corvéables à merci et sont exploitées. Ça a aussi une conséquence pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs en Suisse parce que ça crée du dumping sur les conditions de travail et sur les salaires.
Des propos recueillis par notre correspondante au Palais fédéral, Marie Vuillemier, la gauche et les syndicats estiment que la mise en œuvre de l'initiative isolerait la Suisse, alors que la situation géopolitique actuelle nécessite au contraire un renforcement des relations internationales.
Les secours en montagne ont été davantage sollicités en 2025 en Suisse, selon le Club Alpin Suisse.
Près de 4000 personnes ont été secourues l'an dernier, soit environ 11% de plus que la moyenne des années 2020 à 2024, indique aujourd'hui le CAS dans un communiqué. Cette progression pourrait s'expliquer par une fréquentation accrue des montagnes, illustrée notamment par des records de nuitées en cabane. En parallèle, 98 personnes ont perdu la vie lors de sports de montagne classiques contre une moyenne de 119 décès par an sur la dernière décennie. L'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé hier un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky. Il permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones. L'objectif de l'accord est que l'Ukraine aide l'Arabie Saoudite à développer tous les composants nécessaires à la défense aérienne qui leur font actuellement défaut. À la veille du départ, les organisateurs des trophées du Muvran ont dû composer avec des conditions hivernales marquées. Jusqu'à 50 cm de neige fraîche sont tombés sur les trois parcours que propose le comité d'organisation pour la 79e édition, obligeant les équipes à revoir leurs copies. Comme chaque année, la priorité reste claire, garantir la sécurité des coureurs tout en maintenant une course attractive. Face à ces conditions, certaines décisions fortes ont dû être prises, comme nous le précise Johan Tasch, chef de course des trophées du Muvran.
Oui, on est bien équipé. Ça fait déjà plusieurs jours, pour ne pas dire semaines, qu'on surveille l'évolution de la météo. Donc, ce n'est pas une surprise cette neige qui est arrivée. On a des quantités qui varient entre 30 et 50 cm. Donc, évidemment que quand on a des conditions de neige comme celle-ci, on est obligé de s'adapter, de trouver des solutions, de savoir aussi renoncer. Comme je disais avant, la sécurité des coureurs et des bénévoles, c'est la priorité numéro un pour nous. Cette année, par exemple, on a pris la décision mardi soir de faire d'entrée de jeu une croix sur le couloir du Pacheux parce qu'on savait que c'était complètement irréaliste de pouvoir l'équiper avec tout le matériel et les hommes nécessaires là-bas en haut. On a préféré concentrer nos forces de travail pour pouvoir adapter un parcours. Comme je disais, il faut savoir être flexible. On prend ce que la montagne et la météo nous offrent. Et à partir de là, avec les compétences de tous les chefs de secteur et des bénévoles, on essaie de mettre en place une organisation, des parcours modifiés, puis de trouver quand même la possibilité d'offrir une belle course à nos coureurs qui viennent et qui nous sont fidèles.
Des mesures nécessaires donc pour garantir le bon déroulement de l'épreuve dans une discipline où la montagne impose toujours ses règles. Un sujet signé Ludovic Turin.
Dès ses premiers coups de pédale dans le peloton professionnel, l'Elite Foundation Cycling Team a surpris.
La formation romande du directeur sportif chablaisien Laurent Dufault a signé 3 podiums sur ce début de saison au niveau continental, le 3e échelon mondial. 2 de ces places d'honneur ont été obtenues sur le Tour des 100 communes, grâce notamment au coureur valaisan Valentin Darbelay. Riche d'une dizaine de coureurs, l'équipe attend désormais sa première victoire. Laurent Dufault.
L'idée, c'était déjà de prendre ses marques, que ça soit au niveau de l'équipe continentale comme l'équipe amateur. Et puis, des deux côtés, début mars, a marqué un peu un tournant avec ses premiers podiums. maintenant, on va se diriger gentiment à l'ouverture de la saison en Suisse, parce qu'il y a le Grand Prix Bera prochainement du côté de Saillant, où on est tenant du titre depuis 2 ans. Et puis, l'équipe continentale va aborder la suite avec 4 belles épreuves un peu dans le nord, avec le circuit de la Loire-Atlantique, la route Orangelle, Paris-Camembert, la route Adélis. Ce sont toutes des courses, et aussi une course par étape, le circuit des Ardennes, où là, l'équipe va également avec beaucoup d'ambition. Donc voilà, on croise les doigts.
Le Grand Prix Bera de Saillant se tiendra samedi. Vainqueur en 2025, Valentin Darbelay sera au départ. Un sujet de Thierry Nicolet.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.